Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je reçois sur So Sweet Planet Marine Calmé pour son livre « Devenir gardien de la nature », sous-titré « Pour la défense du vivant et des générations futures ». Marine Calmé est juriste en droit de l'environnement et porte-parole du collectif Hors de question, OR, qui s'oppose au projet Montagne d'Or et à l'industrie minière en Guyane. Marine Calmé milite pour la défense des droits de la nature. Donc je reprends le texte qui est sur ton livre. Un pied en Amazonie et l'autre en métropole. Elle élabore de nouvelles réponses à la crise écologique, inspirées de l'intelligence des écosystèmes et des savoirs des peuples autochtones. À 30 ans, elle est présidente de Wild Legal, une association qui s'est donnée pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. Experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat, elle se bat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Bonjour Marine et bienvenue sur So Sweet Planet.
Merci et bonjour.
Ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, donc « Devenir gardien de la nature », c'est que en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pourrait croire en voyant ce livre comme ça, bien que la couverture soit très belle. Parce qu'on pourrait voir le livre sur une table d'une librairie et puis avoir un peu des préjugés parce que en fait, c'est beaucoup plus intéressant et intelligent qu'un simple livre qui surferait sur la tendance du moment, genre une aventurière des temps modernes, écoféministe, engagée sur les questions écologiques, qui serait allée en pleine jungle, en Amazonie, avec les peuples autochtones. Et c'est beaucoup plus profond que ça. Ce livre, ton livre, et c'est très bien construit à plusieurs niveaux parce qu'il y a à la fois ton parcours personnel, donc comme un journal qui est assez captivant, il y a l'aspect juridique, puisque tu es juriste, qui, sans être ennuyeux, je le précise, nous permet de mieux comprendre de l'intérieur ce à quoi vous vous attaquez. Je dis vous parce que là, c'est au pluriel, donc avec les personnes qui t'accompagnent. Notamment, donc, ce à quoi vous attaquez, notamment au travers de ces 3 années de mobilisation contre les industries extractives en Guyane française. Et cela nous permet aussi de mieux comprendre où ça bloque. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, parce que vu de l'extérieur, on ne comprend pas très bien quelquefois. Donc, tu nous refais aussi le contexte historique, et ce qui n'est pas négligeable par rapport à la Guyane française, que l'on connaît si mal. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ton attitude avec cette perpétuelle remise en question de ta compréhension des choses, de la façon dont vous vous y prenez, de la façon dont on peut militer. Tu observes beaucoup, on va le voir dans l'interview, lorsque tu es allé sur place auprès des peuples autochtones. Donc, tu observes beaucoup pour vous donner les moyens de faire vraiment avancer les choses et de réussir. Et tout ça à la fois ponctuellement sur des cas concrets sur lesquels tu t'engages, puisqu'il y a eu pas mal d'autres cas aussi avant ce livre, mais aussi pour faire advenir ce changement profond de société, de paradigme, ces modifications structurelles que tu souhaites et dont nous avons maintenant tous besoin sur cette planète. Et d'ailleurs, tu résumes, je trouve, assez bien tout ça dans les dernières pages de ce livre, page 191, tu écris « Si je raconte tout cela, ce n'est pas dans le but de faire l'éloge exotique de ces peuples d'Amazonie ou d'essayer de dépeindre un tableau paradisiaque d'une civilisation qui pourrait être le nouveau fétichisme des écologistes métropolitains, mais bien pour interroger notre relation à la nature, sa place dans notre imaginaire collectif et son rôle dans nos apprentissages. » Donc, dans ce livre, tu expliques pourquoi il est urgent de réaliser de profonds changements de société. Est-ce que tu peux déjà nous dire comment toi, tu t'es éveillé à ces préoccupations environnementales ? Est-ce que ça a été une évolution progressive ? Ou est-ce qu'il y a eu un moment de bascule, un déclic, un moment précis? Quel a été le point de départ de tout ça?
Alors déjà, merci pour ce beau résumé du livre et puis tous ces compliments. J'espère que ça donnera envie à d'autres de se pencher sur ce livre. Alors effectivement, je crois que chez moi, il y a eu plusieurs temps de déclic, en fait. J'ai eu de la chance parce que je suis née dans une famille où mon père m'a enseigné l'amour de la nature très jeune. Lui, il était biologiste et a partagé donc tout ce savoir qu'il avait sur la nature depuis l'enfance avec nous. En tant que, justement, plongeur, on partait découvrir les océans ensemble. Il m'apprenait le nom des poissons, mais aussi dans nos randonnées, le nom des plantes. Et c'est pas rien, c'est quelque chose de très important, je pense, justement, sur l'ouverture à la nature. Et ensuite, j'ai eu plusieurs étapes, puisqu'à travers ma formation en tant que juriste, j'ai choisi, par curiosité, de m'intéresser à la question du droit de l'environnement. Et déjà, à la période donc de l'université, j'avais choisi de faire du droit comparé. C'est-à-dire pas d'apprendre uniquement le droit de l'environnement en France, mais aussi de le comparer avec le droit. Alors, en l'occurrence, moi, je faisais du droit comparé allemand. Et donc, je comparais ce qui n'allait pas en Allemagne et ce qui n'allait pas en France. J'essayais de trouver des solutions entre les deux. Et il se trouve que je me rendais bien compte que on n'avait peut-être pas les mêmes règles, mais en fait, on arrivait au même résultat complètement problématique. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est peut-être pas finalement une question de droit, c'est peut-être une question de culture. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, j'ai essayé de faire un pas de côté, aller voir vraiment dans d'autres civilisations quelle était la relation à la nature. Et donc, c'est vraiment en travaillant, en découvrant la Guyane, en travaillant avec les peuples autochtones, que j'ai fait ce pas de côté et que je me suis rendu compte qu'effectivement, le droit n'était que en fait, la transposition, l'écriture de notre relation avec la nature. Mais le plus profond des problèmes, c'est finalement cette culture que nous avons de détruire la nature, de nous en servir comme objet et donc évidemment de ne laisser aucune place en fait à ces écosystèmes dans notre société. Donc il y a évidemment un changement de paradigme qui s'est opéré à ce moment-là. Là, c'était mon déclic, c'est-à-dire que de comprendre que c'était un bouleversement culturel qu'il fallait opérer et pas juste, justement, une modification de la loi. Et donc, évidemment, ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin en Guyane en apprenant, en écoutant. Donc, c'est, comme tu l'as dit, vraiment en écoutant, en me formant, en allant à la rencontre des personnes en Guyane, que par la suite, j'ai fait mon petit bout de cheminement pour tenter de proposer justement une nouvelle relation avec le vivant et aussi des modifications de notre droit, puisqu'en tant que juriste, c'est aussi mon rôle de réfléchir à ces questions. Et donc, voilà un petit peu ce cheminement qui m'a pris de nombreuses années et à travers lesquelles, justement, j'essaye de guider mon lecteur parce que je ne voulais pas donner une manière de faire clé en main. Qu'est-ce que c'est être gardien de la nature? Pour moi, c'est vraiment un cheminement de toute la vie. Et donc, oui. C'est traverser des étapes progressives et justement en faire, en fait, un peu son leitmotiv de vie, c'est-à-dire devenir profondément gardien de la nature et s'imprégner justement de cette connaissance de vivre la nature et de la défendre au quotidien.
Voilà, alors c'est effectivement, comme tu dis, tout un parcours, et puis on le voit dans ton livre, c'est quand même truffé d'embûches et de... Il faut quand même une bonne dose de persévérance. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toi, tu as décidé d'aller vraiment dans le concret, quoi. Et ça, pour ça, vraiment, félicitations, parce que c'est vraiment une mise en mouvement concrète, là, pour du coup, c'est pas, ça pourrait rester théorique et puis justement rester au stade de signer des pétitions ou comme tu le dis dans ton livre, au bout d'un moment, c'est un peu frustrant aussi. Et alors, dans le préambule, tu établis un lien que j'ai trouvé très judicieux avec Galilée et Copernic et leurs découvertes et les résistances qu'elles ont provoquées à l'époque dans leur contexte. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce passage?
Alors oui, en fait, j'ai toujours été fascinée par la pièce de La vie de Galilée de Bertolt Brecht, parce qu'il raconte la vie donc de Galilée, ce chercheur qui justement, grâce à la lunette, donc cet outil qui lui a permis d'observer les étoiles, a pour la première fois pu démontrer qu'effectivement la Terre n'était pas le centre de l'univers comme le disaient les écrits bibliques et comme l'interprétait évidemment l'Église dans la volonté justement de placer l'homme, la création divine, au centre de tout. Et ça, c'est pour moi une chose essentielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'effectivement, dans notre société, l'homme est absolument persuadé d'être le centre de toute chose et que tout nous appartient, nous sommes au-dessus de tout, Nous sommes au centre de cet univers et donc nous devons assouvir nos besoins, nos volontés, dominer la nature. Et je pense que c'est effectivement de là que vient le mal finalement, cette absence de conscience que nous appartenons au vivant et que nous ne sommes pas justement le centre du monde et que le monde ne tourne pas autour de nous à nous servir, voilà, comme on se sert aujourd'hui de la nature, comme garde-manger, comme mine, comme en Guyane, c'est-à-dire comme ressources extractives. Et donc, ce qui m'intéressait dans le parallèle avec cette pièce qui est formidable de Bertolt Brecht, c'est que il explique tout ce bonheur qu'a Galilée de découvrir quelque chose de complètement nouveau et d'être en capacité pour la première fois de démontrer véritablement grâce à la science qu'il a raison, que les modèles qui étaient jusqu'ici appliqués étaient faux, et il a cette joie un peu enfantine d'apporter le savoir en fait au public. Il parle des femmes sur les marchés, des enfants à l'école, et c'est quelque chose qui m'imprègne énormément parce que j'espère justement que aujourd'hui, je le vois d'ailleurs notamment avec la loi climat, la question climatique, elle est discutée dans les marchés, elle est discutée dans les rues, dans les cafés. Aujourd'hui, la question du climat, elle est partout, elle n'est plus réservée justement à un petit monde de scientifiques. Et donc, je fais ce parallèle parce que justement, la science est en train de prendre le relais sur le cercle très fermé de ceux qui détiennent le savoir. Et justement, grâce à ça, il est en capacité de démontrer que ce modèle qui nous était dicté jusqu'ici, ce n'était qu'un dogme, c'était faux, et que donc, il faut le remettre en question. Et de la même façon, aujourd'hui, on le voit bien, la question du climat, d'extinction des espèces et tout ça, elle est démontrée par les scientifiques, les citoyens s'en emparent et sont capables d'avoir aujourd'hui un débat construit permettant de remettre en question le modèle capitaliste, extractiviste, globalisé, libre-échangiste. Et c'est vraiment une révolution profonde, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire au peuple en les regardant de haut, mais vous ne vous inquiétez pas, la main du marché va réguler les richesses. Il y a un effet de ruissellement, les riches vont vous reverser quelque chose, c'est évident. Quand les riches vont bien, tout le monde va bien. Aujourd'hui, on voit bien que c'est absolument faux. Mais en plus, on a ces connaissances vis-à-vis de la nature qui nous permettent aussi de dire pourquoi c'est faux et pourquoi ce schéma de développement n'est plus acceptable. Et donc, j'essaye, à travers ce parallèle avec Galilée, de démontrer que justement, c'est en apportant ce savoir à tous qu'on peut remettre en question aussi notre culture et changer complètement notre mode, la façon dont on voit le monde. À l'époque, j'imagine assez bien le tremblement de terre que ça a dû être pour des personnes qui s'étaient toujours imaginées comme le centre de l'univers, d'un coup réaliser que non, l'humain était dans le vide, projeté quelque part dans l'espace, tourné autour d'autres planètes. Et bien, de la même façon, aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce tremblement de terre, il faut que l'humain comprenne qu'il fait partie de cette communauté du vivant, qu'il n'a pas justement à entretenir des relations de domination vis-à-vis des autres espèces, et que nous devons trouver absolument un mode de vie qui soit apaisé, qui soit compatible avec le fonctionnement du vivant, et donc aussi les règles de la physique, de la chimie, de la biologie. Et c'est ça qui je trouve fascinant, c'est que pour une fois, on peut s'en référer à la science pour donner beaucoup de pouvoir à nos citoyens pour remettre en question ce système.
Tu montres bien en même temps que les résistances ont été très violentes.
Au sein de l'Église, c'était une remise en question des écrits sacrés. Donc évidemment, ça a été très violent. Galilée a dû renier sa parole. Pourtant, il savait qu'elle tournait, mais il a dû revenir et se protéger lui-même. Et c'est évidemment aussi dans cette histoire ce qui rend le personnage aussi fascinant, c'est qu'il a dû garder pour lui-même, mais à l'époque, il risquait le bûcher. C'est-à-dire qu'heureusement, aujourd'hui, dans la parole en démocratie comme en France, heureusement, on ne risque plus ce genre de sanctions, même si on est, il faut le dire quand même, souvent marginalisé par nos prises de position. Et je le vois d'ailleurs, et actuellement, ça m'inquiète justement beaucoup, cette chasse aux sorcières qu'il y a parfois contre justement des représentants des mouvements écologistes, où on sent des prises de parole politiques de plus en plus ferme, de plus en plus condamnant le modèle écologiste, dénigrant, stigmatisant les propos soulevés par les représentants politiques écologistes. Ça m'inquiète parce que ça me fait penser à cette censure de l'Église à l'époque qui a voulu faire taire de la même manière Galilée et puis les autres scientifiques qui remettaient en question le système. Et je pense que le parallèle est très intéressant parce que justement aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut continuer à s'appuyer sur la science, les faits, et continuer évidemment à diffuser cette parole parce qu'en fait, ce qui a été très intéressant dans cette révolution copernicienne, c'était que c'était la lunette, le fait que chacun puisse posséder le microscope pour regarder lui-même vers les étoiles qui a fait que l'Église n'a pas pu tenir bien longtemps face à ce dogme que tout un chacun pouvait remettre en question finalement en simplement pointant un microscope vers l'espace. De la même façon, aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons la radio, le téléphone, les informations circulent tellement vite que si justement cette prise de conscience et ces paroles sont diffusées, alors je pense que justement ces dogmes ne pourront plus tenir très longtemps et on ne pourra plus étouffer la voix de ceux qui veulent faire entendre un nouveau modèle, faire naître un nouveau modèle en fait, à la fois juridique, politique, économique. Mais on est dans cette, et j'en parle dans le livre, c'est-à-dire ce cheminement à travers trois étapes. D'abord une idée dont on rigole, dont on se moque, puis une idée qui fait peur, et je pense qu'on en est là. L'idée fait peur aujourd'hui de ce changement de paradigme absolument nécessaire. Et puis demain, nos enfants trouveront complètement aberrant le système dans lequel on a vécu aujourd'hui et se demanderont bien comment on a fait pour supporter ça aussi longtemps. Donc on en est à la deuxième phase pour moi. Les idées font peur, elles sont stigmatisées, il y a des confrontations qui sont devant nous et qu'on traverse actuellement d'ailleurs. Et puis demain, heureusement, on aura, j'espère, atteint ce stade où la pensée écologiste sera absolument mainstream et on ne reviendra plus jamais en arrière.
Ça me fait penser au film La Belle Verte de Colin Serrault.
Complètement, mais complètement.
La phase 3, parce que là, on n'y est pas encore quand même à la phase 3. Ni...
Non, ça prend, je pense, plusieurs générations. D'ailleurs, Galilée est mort avant de voir en fait, son œuvre devenue justement commune. Toute sa vie, il a dû garder le silence après avoir renié ses convictions. Alors, heureusement, j'espère ne pas jamais en avoir à arriver là, mais n'empêche que il est évident que pour changer les mentalités, il faut des générations. Et donc, le plus important est aussi d'apprendre à nos enfants à être de bons gardiens de la nature.
Mais ce qu'il y a, c'est que là, on n'a plus beaucoup de temps, en fait. Hein. On ne va pas pouvoir attendre des générations pour réaliser, pour opérer les changements qui doivent être mis en place. Et on a une urgence qui est assez inédite aussi.
Oui. Et en même temps, justement, c'est maintenant que tout se joue, c'est-à-dire le changement culturel, il est là. Les jeunes générations, elles sont très conscientes de ce qui est en train de se passer. Elles grandissent avec cette culture un peu du risque, c'est-à-dire elles savent ce qui va arriver et elles sont plus sensibilisées que n'importe quelle génération avant elles. Donc j'espère que ça va aller assez vite maintenant.
Alors, dans ce préambule, tu expliques aussi par rapport aux peuples autochtones, je te cite, la révélation qu'a représenté le fait de voir notre culture occidentale à travers leur regard et leur lutte. Comment est né cet intérêt pour les peuples autochtones et cette envie, qui est apparemment parallèle, cette envie de décentrer ton regard, de te décentrer ?
Alors, c'est venu en fait d'un espèce de ras-le-bol aussi, il faut le dire, de la manière de militer un peu classique en Europe. C'est-à-dire j'avais l'impression de faire énormément de choses, de dépenser une énergie considérable. Alors j'écrivais des recours, je me suis battue contre la centrale de Flamanville. Il y a eu Notre-Dame-des-Landes, évidemment, on était des milliers à se mobiliser contre Notre-Dame-des-Landes et d'autres sujets sur lesquels j'étais extrêmement active. Et en fait, je ne voyais pas les choses avancer, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait un pouvoir politique absolument sourd à nos revendications, qu'il fallait marcher dans la rue. Chaque année, il y avait des marches à Notre-Dame-des-Landes et on n'avait pas l'impression que ça bouge pour autant. Des recours, j'en ai déposé, j'en ai perdu beaucoup. Et donc, c'était un espèce de ras-le-bol de voir les choses qui n'avançaient pas. Et pour autant, une fatigue considérable parce que j'y mettais une énergie dingue. Et donc, je me suis dit que peut-être j'arriverais en partant, en allant voir comment ça se passe ailleurs, j'arriverais à trouver des solutions plus utiles que celles qui, je voyais bien, me laissaient trépigner sur place de ne pas pouvoir obtenir des victoires. Et donc, partir en Guyane, alors c'était, j'y suis allée parce qu'on m'a demandé d'y aller aussi, évidemment, j'ai pas fui comme ça la France métropolitaine, mais on m'a proposé d'aller travailler là-bas auprès des peuples autochtones et j'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était un challenge très intéressant, que je les avais rencontrés et que c'était comme une bouffée d'air frais. Eux, ça fait des centaines d'années qu'ils résistent justement, que leur culture résiste au colonialisme, à l'extractivisme, au pillage de leurs richesses. Et ils ont réussi à préserver leur identité, à préserver leur mode de vie. Et j'avais envie de comprendre du coup, mais comment est-ce qu'ils avaient réussi à faire ça? Quels étaient les fondements de leur société qui permettaient à ces peuples, en fait, de continuer à défendre leur identité? Et donc, c'est en travaillant à essayer de comprendre. Donc, j'ai beaucoup écouté, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris et écouté. Et ça m'a permis justement d'avoir ce reflet de nous, de notre société, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer et d'essayer de comprendre quels mécanismes nous pourrions déconstruire dans notre droit qui bloque, qui fait obstacle, en fait, à un avenir meilleur et qui nous permettent de revenir à une nouvelle réflexion, à reconstruire en fonction, justement, de l'avenir que nous voulons avoir ensemble.
En fait, on voit bien, au fur et à mesure que tu parles, que effectivement, tu as un esprit qui fonctionne beaucoup en établissant en faisant des synthèses de... Parce que déjà, dès le début, quand tu as parlé du droit comparé, il y avait déjà cette idée de comparer, de parallèle et de prendre du recul par rapport à un système dans lequel on est.
Oui, je pense que c'est fondamental de prendre ce recul parce que quand on est au milieu du problème, on nage dans ce problème, on n'a pas suffisamment en fait le panorama complet de quel est le problème, quelles sont les racines, qu'est-ce qui fait que justement on a telle ou telle solution qui est une crispation et on voit que son adversaire en fait. Le problème c'est qu'on voit que ce qu'il y a en face de nous, la partie la plus visible de l'iceberg, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, tous les problèmes, toute la société justement qui est ancrée dans certains dogmes ou certains paradigmes toxiques. Et justement en allant voir comment d'autres peuples ont réussi à construire leur civilisation, ça nous permet pour une fois déjà d'observer, d'être dans une position non plus de combat mais d'écoute et donc d'apprendre d'autres choses. Et puis moi j'ai appris du coup beaucoup de choses qui justifiaient pour moi justement le fait que ces peuples aient pu eux, grâce à des structures différentes de société, évoluer de manière cohérente avec aussi le fonctionnement des écosystèmes, donc sans remettre en question justement la préservation de la nature, tout en se développant, en allant chercher le bien-être de tous les individus du corps social et non plus de quelques-uns qui tirent profit justement des inégalités qui affectent tous les autres. Et donc là, c'est vraiment en regardant comment fonctionnent d'autres peuples qu'on peut se dire et identifier tout ce qui va mal dans nos sociétés et tout ce à quoi on pourrait remédier pour tenter de trouver un nouveau modèle qui nous permettent à la fois de répondre à une crise sociale, mais aussi à une crise écologique.
Alors justement, tu replaces aussi les cas particuliers de Montagne d'Or et des forages offshore dans un contexte beaucoup plus large dès le début, comme tu viens déjà un petit peu de nous en parler. Tu écris « Sur les traces de l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur de l'ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », dans lequel il relate l'histoire d'un continent façonné dans la boue et le sang par la colonisation européenne et les entreprises minières. Et tu écris « Je suis allé constater de mes yeux les séquelles de cette prédation et les conséquences structurelles, politiques et économiques pour les populations locales et les écosystèmes. » Et plus loin tu poursuis « Ainsi, il m'a été donné de voir sous un nouvel angle les impacts de la déconnexion de notre civilisation avec le vivant. » Comment est-ce que tu établis et à quel moment dans ton parcours un lien de cause à effet entre notre déconnexion du vivant et ses grands projets ?
Alors, je pense que ça a été durant le débat public avec la société Montagne d'Or, puisque en fait, la première chose qui nous touche quand on arrive en Guyane française, c'est évidemment cette forêt qui est absolument sublime, où la vie est partout, tout le temps. C'est-à-dire que de nuit et de jour, vous avez ces bruits en permanence du vivant qui sont là avec vous. La nuit, c'est les singes, enfin le matin surtout, et la nuit, tout un tas de bruits d'insectes, de grenouilles. Et toute la journée, c'est chants d'oiseaux qui vous accompagnent absolument partout. Et j'étais complètement emportée quoi, par cette beauté de cette nature brute. Et en parallèle, ça me choquait d'autant plus d'être, durant le débat justement sur le projet Montagne d'Or, donc le projet de mine industrielle, confrontée à des personnes qui n'avaient apparemment aucune sensibilité pour la beauté de ce territoire amazonien et qui froidement nous présenter leur projet qui n'était ni plus ni moins qu'un énorme trou explosé avec de la dynamite la terre pour en faire sortir sa substantifique moelle, c'est-à-dire aller chercher à vraiment aller dans les entrailles pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Et ça me choquait parce que la violence du contraste entre justement ces peuples qui, eux, préservaient cette terre qui était la leur, qui, dans son sol, n'a pas que de l'or, mais aussi tous les vestiges de leur civilisation, les morts de leurs ancêtres et tous ces savoirs qui sont aussi présents dans cette forêt. Eux qui étaient en première ligne justement pour défendre leur territoire et qui s'adressaient avec des mots très simples, nature en fait, et qui parlaient vraiment avec leurs mots à eux pour dire justement cette importance de préserver ces arbres, ces cours d'eau sacrés à leurs yeux. Et puis de l'autre côté, des personnes, pardon, mais en costard, très bien, très chic, mais incapables de comprendre le scandale que représentait leur projet stoïque par rapport à cette souffrance exprimée par ces peuples. Et il fallait que les peuples, et notamment je repense au leader de la jeunesse autochtone de Guyane, Christophe Pierre, qui leur a dit « mais vous venez creuser dans nos cimetières, est-ce que si moi j'allais au cimetière du Père-Lachaise, chercher les bijoux dans les tombes de vos morts, vous seriez d'accord ?» Et même là, ils n'ont pas réalisé la gravité de ce qu'ils étaient en train de faire. Et Christophe avait beau leur dire « mais on ne veut pas que vous replantiez des arbres dans 30 ans pour réhabiliter le site, on veut que vous laissiez nos arbres tranquilles, que vous vous en alliez, que vous retourniez d'où vous êtes venu avec votre projet. » Et c'était vraiment une confrontation extrêmement forte entre justement ceux qui savent qu'ils appartiennent à la terre et ceux qui pensent que la terre leur appartient. Et ça, c'était pour moi une vraie prise de conscience justement de cette indécence qui naît aussi de cette déconnexion avec le vivant, c'est-à-dire que cette prédation, elle est liée au fait que les humains se sont pour certains complètement coupés de la nature et ne voient même plus l'obscénité qu'il y a à aller chercher comme ça, dans les entrailles fouillées dans la terre. Et j'aime beaucoup Eduardo Galeano parce que justement, il rapporte des écrits des premiers chercheurs d'or qui viennent justement conquérir l'Amérique du Sud. Et il dit les paroles qui avaient été dites à l'époque par les peuples autochtones conquis, disant « ils fouillent la terre comme des porcs à la recherche d'or pour nourrir leur faim ». Et le symbole, l'image est très forte pour moi parce que justement, ces peuples ne comprenaient pas pourquoi ces gens retournaient la terre et avaient ce besoin de la détruire pour aller avidement chercher quelque chose au fond du sol. Et en fait, on a la même chose aujourd'hui. Des centaines d'années plus tard, c'était exactement la même chose, cette même avidité, cette même indécence. Et donc, ça m'a beaucoup frappée de le voir aussi de mes yeux, qu'on en était finalement toujours là, que notre société européenne...
C'est un peu désolant.
Voilà. Quelle était l'évolution de notre société européenne ? On avait déjà pillé et détruit l'Amérique du Sud en arrivant, en mettant les pieds sur ce territoire. Et puis, des centaines d'années plus tard, c'était encore et toujours le cas. Et c'était toujours ces mêmes mécanismes qui se mettaient en place sur ces territoires. Et c'est ça qui m'a le plus choquée, en fin de compte.
À partir de là, donc, quand tu t'engages par rapport à la Guyane, tu vas progressivement fouiller dans l'histoire et dans le droit pour mieux comprendre la situation de ces peuples autochtones en Guyane française. Donc, on voit par tous les angles, hein, tu essaies de comprendre, et ça, c'est tout à ton honneur, je trouve, parce que c'est pas juste aller chercher leurs paroles, leurs ressentis. Il y a toute une démarche de par tous les angles d'essayer de vraiment de se faire une idée de cette situation tellement particulière de ces peuples autochtones en Guyane française. Et notamment, cette recherche, tu l'as fait par rapport aux terres. Et c'est assez étonnant et révélateur, j'ai trouvé. Par exemple, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour nous donner une idée de ce contexte qui est quand même bien particulier, de ce que sont les zones de droit d'usage collectif ? Alors, dit comme ça, bon, ça ne donne pas forcément tellement beaucoup envie d'en savoir plus, mais ces zones de droit d'usage collectif et l'accord de Cayenne, parce que je trouve que ça donne une idée un peu du contexte dans lequel l'histoire que tu vas vivre se déroule après.
Alors, en fait, c'est un régime, ces zones de droit d'usage collectif, c'est en fait des zones qui sont attribuées par l'État français aux peuples autochtones pour que ceux-ci puissent continuer à chasser, à pêcher et à cueillir ce qu'il leur faut dans leur médecine traditionnelle ou pour leur rebat. C'est un modèle, en fait, pernicieux parce qu'il place les peuples autochtones de Guyane, premiers habitants, dans la situation de devoir quémander à l'État français des terres coutumières qui leur reviennent en fait de droit et qui étaient leur territoire avant la colonisation. Et donc aujourd'hui, évidemment, il y a des revendications pour faire évoluer ce statut qui n'est plus adapté à leur mode de vie et qui est profondément injuste, voire même humiliant pour ces peuples qui ont toujours été là. Et donc, j'étais arrivée en fait en Guyane dans le cadre du travail effectué par les peuples autochtones pour la restitution de 400 000 hectares de terres qui leur ont été promis en fait par le gouvernement français. C'est-à-dire que en 2017, il y a eu des émeutes justement parce qu'un ras-le-bol, alors qui touchait évidemment les peuples autochtones, mais également d'autres franges de la société guyanaise qui font aussi face au chômage, à l'insécurité, au trafic, pas que d'or, au trafic aussi de drogue, de prostitution. Et donc, un ras-le-bol dans cette société d'être des citoyens de seconde zone, en fait. Et l'État français, à l'époque, s'était engagé à restituer 400 000 hectares de terre donc aux six nations autochtones, puisqu'il y a six nations en tout sur le territoire de la Guyane française. Et donc, ils avaient besoin d'un soutien juridique et ils m'ont demandé si je voulais bien venir travailler avec eux sur ce sujet-là. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à réfléchir et à creuser la question de l'histoire de ces villages pour comprendre comment ils s'implantaient sur des territoires, comment ils faisaient en sorte de répartir les terres entre eux justement pour rechercher en fait le bien de tous les habitants, c'est-à-dire pouvoir assouvir ses besoins alimentaires, pouvoir protéger sa famille dans sa propre maison et construire une vie communautaire en fait de cette manière-là. Et donc évidemment ça m'a renvoyé à la structure de nos propres villes, de nos propres villages, notre structuration politique, notre organisation sociale. Et en observant justement ces choses-là, je me suis posé la question de savoir est-ce que finalement ce lien à la terre, il n'est pas aussi là, c'est-à-dire eux ont réussi à garder une propriété collective, ils refusent des propriétés privées sur la terre parce qu'ils considèrent que c'est le début des inégalités. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et Karl Marx l'avait dit aussi hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que la propriété, dans certaines circonstances, en fait, elle accentue les inégalités entre les individus. Et eux, en fait, ont ce sentiment que pour le bien de tous, il faut garder la propriété. Et en fait, ce n'est pas vraiment une propriété, c'est une forme d'usage collectif de ces terres. Et donc, ensemble, on a réfléchi à comment structurer un office foncier, c'est-à-dire, en fait, un peu tiré justement de ce qui existe déjà en France, une institution qui serait capable de gérer de manière collective ces terres pour que chaque peuple ait accès à la terre de manière égalitaire, en tout cas, et qu'il puisse y avoir des projets qui se mettent en place et qui soient en forme une forme d'autogouvernance de ces peuples. Et ça, évidemment, c'est ce que la France ne voyait pas du tout d'un bon œil, puisque c'était d'une certaine façon de leur donner une autonomie que la France, par la politique assimilationniste qui est mise en place sur le territoire depuis des années maintenant, refuse de voir, évidemment, s'implanter. Et donc, on a été sujet à beaucoup de conflits avec les différentes autorités qui voyaient ça d'un mauvais œil, ce qui était en train de se passer. D'ailleurs, il faut bien le dire qu'aujourd'hui, on est en 2021, ça fait donc 4 ans, puisque c'était en avril 2017, 4 ans que les peuples autochtones ont obtenu cette promesse de la part du gouvernement et que rien n'a évolué et qu'aucune terre n'a été restituée à ces peuples parce qu'il manque encore l'outil, justement, cet office foncier pour leur permettre d'aboutir et d'obtenir leurs terres. Et donc, aujourd'hui, on voit bien la crispation vient aussi de cette terre. Mais de l'autre côté, évidemment, il faut se poser la question. Mais pourquoi y a-t-il ces crispations? Tout simplement parce que, justement, il faut implanter des projets miniers. Il faut implanter des projets d'agriculture en monoculture. Maintenant, on a aussi des projets de centrales qui fonctionnent au bois énergie. Planter du bois pour pouvoir brûler dans nos centrales. Planter du soja pour faire de l'huile. Et tous ces projets, en fait, qui compromettent, évidemment, les terres ancestrales autochtones et leur accession à leurs terres traditionnelles. Donc, il y a une confrontation de deux mondes qui est particulièrement intéressant à observer en Guyane française.
Alors, dans le chapitre 2 tu nous entraînes là en immersion totale dans cette forêt amazonienne que tu nous décris, où tu pars dans des villages reculés, où il faut des heures de pirogue pour accéder, vous dormez dans des hamacs souvent trempés par la pluie, vous êtes sur le fleuve au milieu de violents tourbillons, tu décris la nature si puissante et toi si vulnérable. Et je me suis demandé si tu n'avais pas douté par moment du bien fondé de ton entreprise.
Alors, c'est vrai qu'à certains moments, j'étais pas particulièrement à l'aise. Et notamment parce que j'étais obligée, en fait, j'étais totalement livrée à mes hôtes, c'est-à-dire ces peuples autochtones qui avaient vraiment la responsabilité de moi en entier, parce que je ne pouvais pas assurer ma survie sans eux. C'était le piroguier était le seul à connaître le fonctionnement du fleuve, c'est-à-dire que lui a une connaissance tellement innée de ce fleuve, il l'a tellement arpenté de long en large qu'il sait exactement sous quel tourbillon, quelle pierre, comment l'éviter, alors que moi je ne vois rien dans ces situations-là, je suis aveugle. Et de la même façon, eux sont capables de se nourrir dans un endroit où moi, je ne pourrais que dépérir. Et donc, je me suis complètement livrée, c'est-à-dire j'ai vécu ça, j'ai suivi, j'ai observé, j'ai appris, et je n'avais aucune manière d'avoir un contrôle particulier sur la situation. Et en même temps, du coup, c'est vrai que ce genre de situation vous ramène aussi à ce que vous êtes, c'est-à-dire finalement pas grand-chose par rapport à la force de la nature. Et ça, on a tendance à l'oublier, je trouve, quand on vit dans les villes, c'est justement que l'être humain n'est pas grand-chose, n'est en aucun cas maître de la nature, maître et possesseur, parce que justement, la nature nous dépasse totalement. Quand on est plongé dans la nature, on se rend compte de la dimension et de la force de ces écosystèmes, et en Guyane française particulièrement, parce que ces écosystèmes, ils sont bruts, en fait. Autant les fleuves, vous n'avez aucune chance si vous tombez à l'eau dans un fleuve amazonien, et si vous vous perdez dans la forêt, c'est pareil. La forêt, elle vous prend, et c'est vraiment revenir en fait à cet état qui est très important, parce qu'on se rend compte que justement l'être humain, sa place n'est pas au sommet de la pyramide, si on prend justement qu'on s'extirpe enfin de cette condition de maître et possesseur, et qu'on revient à cette dimension de part du vivant, où nous-mêmes nous appartenons à cette communauté du vivant, enfin on peut avoir cette nouvelle réflexion, et ça, c'est extrêmement important. J'étais très heureuse de vivre ça, même si des fois, j'étais pas rassurée, c'est vrai. J'ai lâché prise et j'ai fait en sorte que ça se fasse, et de le vivre entièrement, en fait.
Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que tu racontes dans les premiers villages et où tu, avec les premières aventures, on peut dire. Et en fait, tu racontes que tu essaies vraiment de reprendre pied parce que tu veux pas passer pour une touriste. C'est quand même important aussi de sauver la face pour réussir à arriver au bout de cette, parce qu'en fait, on n'a pas expliqué, mais pourquoi tu es partie faire cette tournée des villages qui sont très reculés?
Alors, en fait, à la base, j'accompagnais un projet autochtone avec donc la jeunesse autochtone de Guyane, qui est une organisation de jeunes qui regroupe des différents villages, des jeunes au sein des villages qui viennent de ces six nations différentes, et qui, justement, confrontés à la perte de cette identité autochtone, avaient envie justement de transmettre, notamment par le biais des films, du coup, cette identité autochtone, puisqu'en fait, il y a énormément de films aujourd'hui qui traitent des sujets amérindiens ou autochtones en général, mais rarement des films qui sont faits par des réalisateurs autochtones. Voilà. Et donc, leur ambition, c'était de montrer ce patrimoine et comment il peut se transmettre aussi à travers des arts qui sont nouveaux, qui parlent du coup aussi à la jeunesse. Et donc, on était arrivé avec une liste de films qu'on montrait comme ça dans les différents villages. Alors, pour moi, c'était évidemment moins le fait de montrer des films que de sensibiliser ces peuples autochtones aussi à des questions de droit. Parce que j'y suis allée en tant que juriste, ils avaient beaucoup de questions, ils n'avaient jamais vu une avocate avant, personne n'était allé les voir sur le fleuve, et donc ils avaient énormément de questions vis-à-vis de leurs droits à la scolarisation, de leurs droits à chasser, à pêcher, à continuer à vivre comme ils le faisaient comme avant, et puis leurs droits aussi d'être protégés vis-à-vis de ces projets miniers. Et donc on a beaucoup échangé, alors j'ai surtout appris d'eux évidemment, mais quand j'ai pu, j'essayais de leur donner des informations sur ce que sont leurs droits et comment justement dans cette société, ils peuvent aussi se défendre vis-à-vis de ce qui parfois constitue des attaques face à leur mode de vie traditionnel.
Et alors après, pour revenir à cette situation particulière de la Guyane, tu expliques aussi qu'en 1949, la France a créé le service des populations primitives, mais aussi
les homes indiens.
Pour une éducation à la française qui va en fait laisser quelques séquelles.
Oui, tout à fait. Alors, il faut bien avoir en tête qu'en fait, donc la Guyane était une colonie. Hein. Le ministère des Outre-mer, avant, c'était le bureau des colonies. Donc, il y a toute une évolution dans notre sémantique. Mais le rapport de domination, lui, il est toujours là. C'est-à-dire que, comme dans nombreux États dans le monde, on parle beaucoup du Canada, des États-Unis, on a tenté d'assimiler ces peuples, de détruire leur culture et de faire de leurs enfants de bons petits Français qui vont à l'école de la République et qui chantent, et je l'ai vu, hein, Une souris verte et ce genre de chansons à l'école qui apprennent donc l'ensemble de notre répertoire culturel européen, mais qui n'apprennent pas leur culture malheureusement et qui du coup sont séparés de leurs racines. Et
donc non plus d'ailleurs, on n'apprend pas tellement leur culture.
Non, nous évidemment, on n'a aucune idée de qui ils sont, de quels sont leurs savoirs, d'où vient leur identité. Moi, je n'avais jamais entendu parler des peuples autochtones jusqu'à justement être confrontée à cette situation en Guyane, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend à l'école malheureusement, alors que eux apprennent notre histoire, pardon. Et donc, il y a eu une tentative d'assimilation de ces peuples qui continue d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on essaye justement de faire en sorte que leur village soit maintenant dans les villes, donc dans un schéma classique avec un maire, avec des employés de mairie, une structure comme on aime bien chez nous, sauf que ce n'est pas leur structure traditionnelle, ça n'a rien à voir avec leur structure traditionnelle. Il faut bien voir que ce sont des peuples qui majoritairement sont des structures sans chef, parce que ce sont des petits groupes d'individus, d'une cinquantaine à l'origine environ, des peuples qui étaient semi-nomades, c'est-à-dire avec une implantation, mais qui, au gré des saisons, justement, se déplaçaient dans la forêt. Et donc, ils n'avaient pas du tout une mairie, un centre des impôts, une poste. Tout ça, c'est arrivé sur le tard, et ça a complètement bouleversé, évidemment, leur structure sociale. Et donc, dans ce schéma-là, évidemment, ça a complètement transformé leur mode d'organisation traditionnel. Et c'est ça, aujourd'hui, qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire que même en remontant le fleuve justement tout au fond de la forêt, dans une zone qui normalement devrait leur être réservée, puisque c'est un territoire qui, pour y accéder, nécessite une autorisation de la préfecture. La France a gardé des régimes différents pour le littoral de Guyane, où là on peut se déplacer librement, et l'intérieur du territoire, où il faut faire une demande auprès de la préfecture à justifier d'une raison, d'un motif pour aller visiter les chefs ou les villages. Et donc, il y a encore un statut un peu protecteur. Et pour autant, ce qui est très frappant, c'est que les enfants, même aujourd'hui, parce qu'on n'assure pas justement une éducation scolaire dans les villages, sont forcés de quitter leur maison, leur famille. Ils sont forcés d'aller vivre dans des internats. Alors aujourd'hui, ce n'est plus des homes indiens, ce n'est plus des internats catholiques dirigés par des sœurs, mais ce sont des internats gérés par les pouvoirs publics et qui malheureusement, c'est un échec, cette politique, parce que déracinés de leur famille, ils vivent dans ces internats où les taux de réussite scolaire sont extrêmement bas, c'est-à-dire l'échec et le fait qu'ensuite ils reviennent en fait dans leur village sans avoir accompli cette formation, sans avoir pu finalement trouver un emploi aussi. Et pour eux, un échec, ils vivent très mal. Il faut avoir conscience qu'en Guyane française, le taux de suicide chez les jeunes est extrêmement élevé. On parle à 10 fois supérieur au taux de suicide en France métropolitaine pour des jeunes du même âge. Il y a des jeunes qui sont extrêmement jeunes, qui mettent déjà fin à leur jour. Et ça montre bien qu'il y a un mal-être chez ces peuples qui sont à la fois tiraillés entre leur monde qui est en train de se déliter parce qu'ils sont assimilés à la France, et puis ce mode de vie contemporain européen qui en fait ne leur ouvre pas vraiment les portes parce qu'ils sont défavorisés, ils ne parlent pas du tout d'un même pied d'égalité, ils sont souvent en échec, ils tombent dans des circuits de prostitution, de trafic et de clandestinité qui est extrêmement grave. Et donc, il y a une situation sur ce territoire d'une violence inouïe vis-à-vis de ces peuples qui m'était méconnue et que j'ai voulu raconter parce que je pense que si justement c'était plus su, ce serait un véritable scandale. Et aujourd'hui, on n'imaginerait pas une telle situation en métropole. Moi, j'envisagerais jamais de confier mes enfants à un internat, tout simplement parce que personne ne peut mieux que moi assumer le bonheur de mon enfant. Et donc, aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'on fait subir à tous ces Amérindiens qui arrivent dans des villes sans avoir justement jamais eu de contact avec ces civilisations et qui se retrouvent projetés dans un monde extrêmement violent. Et il fallait pour moi que je le raconte parce qu'on ne trouve jamais ce genre d'informations dans les livres. Et pourtant, c'est ça notre République aujourd'hui. Et c'est un vrai scandale.
Et d'ailleurs, dans la façon dont on les considère, et pourquoi il y a eu ces zones d'accès réglementées, tu expliques aussi parce qu'il y avait des genres de safaris qui ont été organisés à une certaine époque, où on emmenait des groupes de touristes, comme on a eu les zoos humains ici. On allait les regarder vivre. C'était pour l'exotisme, pour le voyeurisme.
C'est ça, c'était le Club Med hein, qu'on connaît, qui existe toujours aujourd'hui, hein, qui a organisé des petites sorties Cayenne, remontée en pirogue, aller photographier les peuples autochtones, les sauvages dans les villages et qui, bah, du coup, mettaient en danger en fait ces peuples à cause des transferts de maladies possibles justement avec des personnes qui sont normalement assez isolées. Et donc, il a fallu évidemment mettre un terme et je pense que ça a été une décision qui a été saine, d'ailleurs prise en accord avec ces peuples de restreindre l'accès à ces terres qui sont, voilà, qui sont les leurs et qui a heureusement pendant un moment aussi freiné les fantasmes aussi de certaines personnes qui partaient aussi dans la forêt se perdre et qui malheureusement ont dû en fait donner lieu à des opérations de secours dans la forêt parce que en fait on ne naît pas avec le savoir de la forêt, c'est un apprentissage. On en revient un peu là. Les peuples qui y ont grandi, qui ont vécu toute leur vie, eux connaissent la forêt comme leur poche. Mais pour nous, c'est un autre monde. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse complètement, cette puissance de la nature et qu'il faut apprendre à apprivoiser avant de se lâcher comme ça dans la forêt.
Alors, les personnes qui t'accompagnent sur place, qui sont engagées aussi, certaines depuis longtemps, pour la reconnaissance de leurs droits, et tu dis que les zones de droits d'usage collectif dont on a parlé sont des régimes obsolètes vu les progrès réalisés ailleurs. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'endroits où ça fonctionne mieux pour montrer que c'est possible ?
Rien qu'en France, déjà, il y a des endroits où ça fonctionne mieux, puisque le statut, par exemple, des terres coutumières Kanak, donc en Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons également des peuples autochtones de l'autre côté de la planète sur un territoire français. Les peuples autochtones Kanak, eux, se sont battus, ont versé leur sang, malheureusement, pour réussir à arracher à la France des droits supplémentaires, justement, sur leurs terres, puisqu'on a eu des accords qui ont été signés à la suite des combats qu'il y a eu en Nouvelle-Calédonie et qui a accordé un nouveau régime aux terres coutumières. Donc, sur les terres coutumières, ce sont les peuples autochtones qui s'autogouvernent et qui décident, justement, des règles applicables. Et donc, on a deux systèmes. On a d'un côté le code civil français et un code coutumier qui est vraiment l'affaire des peuples autochtones. Et donc, forcément, un modèle qui est plus respectueux, évidemment, de leur mode de vie ancestral. Donc, rien qu'en France, on sait déjà qu'on peut mieux faire. Et puis après, il y a évidemment d'autres États dans le monde où la question de la protection des terres autochtones a avancé plus vite. Par exemple, du coup, dans les terres qui sont démarquées au Canada, mais aussi des systèmes qui ont été élaborés dans les pays du nord de l'Europe, où, par exemple, avec les peuples Sami, il y a eu des parlements Sami, donc mis en place dans d'autres territoires où justement on a vu qu'il y avait un besoin de représentation plus fort de ces peuples, notamment sur les questions évidemment qui touchaient à leur culture, à leur éducation, à leur tradition. Et donc on a des modèles aujourd'hui. Alors je ne dirais pas qu'il y a des modèles parfaits, puisqu'on le voit malheureusement, il y a toujours encore cette réticence de la part de l'oppresseur, du colon, de continuer à garder la mainmise sur finalement le pouvoir central. Mais il y a des États où justement il y a un plus fort partage de ces pouvoirs, et notamment en France, où on voit bien que justement avec notre droit actuel, on est capable de laisser de la place à cette culture autochtone et à faire une séparation entre certains régimes qui nous permettent de respecter leur identité.
Page 58, tu écris, tu l'as évoqué déjà un peu tout à l'heure, le protocole d'accord signé avec le ministère des Outre-mer en 2017 mentionne une rétrocession de 400 000 hectares, mais les leaders insistent bien sur le fait qu'il s'agit d'une restitution. Ils rappellent que les terres autochtones n'ont pas été cédées à la France et que le colonisateur les a purement et simplement accaparées. Malgré ce faux pas, écris-tu, l'État français reconnaît pour la première fois que les territoires de Guyane appartenaient aux Premières Nations. De plus, en s'engageant à mettre en place un office foncier autonome, il leur reconnaît également le droit de décider souverainement de l'avenir des six nations amérindiennes de Guyane. Ça, ça avait l'air plutôt pas mal, non ?
Sur le papier, ça avait l'air vraiment bien. Et oui. On a travaillé pendant des mois justement à tenter de faire aboutir. Alors, en gros, on s'y est pris en organisant des séminaires, en faisant venir les chefs. Moi, j'étais allée dans les villages pour comprendre en fait leur histoire et donc aussi leurs problèmes. Parce que de leurs premières implantations jusqu'à aujourd'hui, souvent, il s'est passé de très nombreuses années. Et donc, oui. Leurs besoins ont évolué. Et par exemple, aujourd'hui, ils sont souvent face à des problèmes de squat sur leur terre, de vol, et du fait aussi qu'ils ne soient pas raccordés à l'eau, à l'électricité, alors qu'aujourd'hui, ils, progressivement, parce que justement, ils s'intègrent dans notre société, c'est une demande qui est tout à fait légitime de leur part, de dire il n'y a pas de raison que demain, l'électricité ne passe pas par leur village à eux aussi. Et donc, il y a tous ces besoins qui sont exprimés, évidemment, par les différents villages. Et donc, je suis allée les rencontrer et ensuite, j'ai rassemblé les chefs pour écrire, tenter d'écrire justement un texte qui leur convienne pour créer cet office foncier amérindien. Et donc, il y a vraiment une volonté chez eux, voilà, de trouver un nouveau mode de gouvernance. Ils refusent jusqu'à aujourd'hui encore, justement, d'adopter le modèle qui est le nôtre, de passer en propriété privée, parce que on le voit dans certains villages, justement, c'est très intéressant, notamment au village Bellevue, qui est un village vraiment au milieu de nulle part, sur le littoral de Guyane, qui n'a ni accès au téléphone, ni à Internet, vraiment un endroit où le statut du village est vraiment encore entre deux mondes. Eh bien, on le voit, l'État français et notamment la mairie locale essayent de promettre aux habitants une parcelle pour 1 € symbolique en propriété privée, ce serait chez eux. Et en fait, les sages du village, les chefs, savent très bien que ça, c'est un nouveau coup porté à leur structure sociale, parce que le but est in fine de faire en sorte qu'ils ne tiennent plus en propriété collective, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent plus ensemble, mais qu'au contraire, ils soient chacun de leur côté éparpillés avec des titres individuels. Et ça, les chefs ont bien compris que c'était extrêmement dangereux, parce qu'on pourrait du coup leur racheter leurs terres en soudoyant des individus. C'est plus facile évidemment que de s'en prendre à un collectif, et évidemment en les mettant par exemple en faillite, parce que ça voudrait dire aussi des impôts qu'ils ne peuvent pas assumer, et finalement on finirait par les expulser ou racheter leurs terres et du coup détruire leur village. Et donc ça, évidemment, c'est une menace qui plane, et on le sait. Donc du coup, c'est vraiment ce que j'ai observé, c'était que la propriété privée et cette intrusion finalement du modèle occidental, c'était vraiment ce qui mettait finalement le plus en danger leur structure et leur identité commune. Et donc c'est aussi en retour, on se pose la question en tant qu'individu, et évidemment, est-ce que nous sommes bien protégés en France avec notre modèle? Est-ce que finalement, justement, moi qui vis à Paris, qui ne connais même pas les gens qui vivent sur le même palier que moi, je suis bien protégée? Est-ce que finalement, est-ce que leur modèle n'est pas une solution aussi pour nous dans les villes, dans les villages, pour retrouver plus de force? On le voit par exemple dans les mouvements, par exemple dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements justement autour de la remunicipalisation de la gestion de l'eau dans les villes et dans les villages, parce qu'on a laissé la main à des entreprises privées qui justement, pris individuellement, peuvent tous nous prendre à la gorge avec des tarifs prohibitifs, avec des services qui ne sont plus à la hauteur. Et on se pose cette question de remettre du commun et le collectif au centre. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, même en Europe, on se repose la question de est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la destruction du collectif? Est-ce qu'on n'est pas, on ne devrait pas faire un retour en arrière et nous protéger en tenant ensemble? Et c'est ça qui je pense, est aussi la clé, finalement, hein, de ces enseignements que j'ai appris à travers leurs yeux à eux et leur lutte en Guyane.
Oui, tu dis d'ailleurs que c'est le plus gros choc intellectuel que tu aies eu à vivre depuis que tu étais arrivée en Guyane, quand tu réalises que pour eux, la propriété privée n'existe pas. Et je trouve ça intéressant parce que toute la façon dont tu en parles, c'est pas non plus en idéalisant leur modèle, mais c'est vraiment, comme tu l'as expliqué depuis le début, depuis le droit comparé, c'est vraiment toujours en essayant de réfléchir à un système par rapport à un autre, à une approche par rapport à une autre, et à tirer le meilleur et le moins bon de chaque. Et puis ensuite, donc, on entre dans le chapitre de l'affaire Montagne d'Or et tu nous offres là un petit retour historique que j'ai trouvé bienvenu sur le mythe de l'Eldorado et des chercheurs d'or. C'est la fin de la première partie de cette interview de Marine Calmé. Vous pouvez dès maintenant écouter le second et dernier épisode. Nous y parlons des 3 années de mobilisation contre le projet de mine industrielle Montagne d'Or en Guyane française et des carences de notre société et de nos lois pour protéger la nature. Marine Calmé nous propose aussi des pistes et des outils pour devenir gardien de la nature. A tout de suite sur le second épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.